tous et bienvenue dans ECHO, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale.
Mai 2023, clap de fin pour Orion. Cet exercice interarmé avec une composante internationale s'inscrit dans un contexte marqué par la dégradation des relations entre les différents pays du globe. Initié dès 2021, Orion a vu différents conflits présents ces dernières années qui sont venus conforter la nécessité de préparer les armées françaises à la guerre de haute intensité. L'heure est donc au changement d'échelle et à l'élargissement du spectre de l'engagement pour préparer à nouveau les forces françaises au combat. Alors en quoi consiste cet exercice? Quel a été le rôle de la Marine nationale et quels enseignements peut-on en tirer? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le contre-amiral Chétail, commandant adjoint de la force aéromaritime française de réaction rapide. Bonjour amiral et bienvenue dans ECHO.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs.
Alors pour commencer amiral, pouvez-vous nous présenter globalement l'exercice Orion?
Alors Orion, vous l'avez déjà dit dans votre introduction, c'est un exercice qui est très significatif par son ampleur, sa durée. Un exercice qui est découpé en 4 phases et qui va concerner toutes les composantes du ministère des Armées, voire même au-delà du ministère des Armées, tous les acteurs de la défense nationale. C'est un exercice dit de préparation opérationnelle à la haute intensité, c'est-à-dire que le scénario prévu permet de monter en puissance dans la conflictualité jusqu'à un affrontement de grande dimension, une sorte d'affrontement majeur qui verrait l'ensemble des composantes militaires de la nation mises en œuvre. 4 phases, c'est important parce que on voit bien que certaines phases vont concerner plus ou moins différentes composantes. La première phase, c'est une phase de planification. Assez classique si on était face à une crise du monde réel, on commencerait par développer des options, des plans soumis à la décision de nos chefs. Et c'est ce qui a été joué à l'époque avant l'été 2022. Puis, on met en œuvre nos forces pour une entrée en premier sur le terrain, qui va se jouer en février et mars 2023. C'est là où la marine va donner la pleine mesure de ses capacités, puisque cette entrée sur le théâtre, en fait, elle consiste à acheminer des troupes, à préparer et à conduire une opération amphibie et à acquérir la supériorité aéromaritime sur l'état des opérations, c'est-à-dire pour nous, la Méditerranée occidentale, le bassin méditerranéen, entre les côtes d'Afrique du Nord et les côtes françaises. Voilà. Et puis après, il y aura une phase plus de réflexion stratégique, puisque sur le scénario, le conflit continue à se développer malgré les réassurances données par la présence des troupes françaises dans le pays Arnhem, le pays fictif. Et puis en mai 2023, ça sera un affrontement plus général avec une composante essentiellement marquée aéroterrestre.
Et donc c'est cette dernière phase qui s'est terminée justement en mai 2023, venant conclure et mettre fin à cet exercice qui est donc le premier d'un cycle triennal.
Voilà, c'est pour la marine un jalon important d'un cycle que l'on veut étaler sur 3 années, c'est-à-dire qu'entre des années d'été à l'été, entre l'été 2021 et l'été 2022, il y a eu Polaris 21 qui a marqué la marine par son caractère novateur sur les règles de l'exercice et par sa façon d'intégrer tous les domaines de lutte. Donc ça, c'était proprement maritime. Entre l'été 2022 et l'été 2023, il y a donc eu Orion. On passe à une dimension interarmée. Et puis là, on va entamer la phase d'un exercice dirigé par l'OTAN, l'idée par l'OTAN, entre l'été 2003 et l'été 2004. Et donc, nous, Français, on essaye d'imposer ou d'influencer les structures de l'OTAN qui prévoient un grand exercice au printemps prochain, de façon à ce que ce même souci de réalisme et de lutte multidomaine imprègne cet exercice, donc qui marquera le troisième jalon de ce cycle triennal. Et puis après, on sera reparti avec un exercice exclusivement maritime, ainsi de suite.
C'est super intéressant. Et surtout, pour revenir un peu sur cet exercice, la marine, elle, semble être intervenue donc dans la deuxième phase des 4.
Alors, nos forces sont intervenues dans la deuxième phase d'Orion, même si on était présent dès le début, puisqu'on a pas mal de marins qui ont contribué à la planification des options au sein du CPOIA, qui était l'état-major interarmé chargé de développer cette planification, comme ce serait le cas dans une opération réelle. Et puis on est aussi relativement présent lors de la dernière phase de combat aéroterrestre, puisque depuis la mer, depuis l'Atlantique, en fait, Nous avons simulé des engagements par missiles de croisière et également des engagements par rafale marine au-dessus du théâtre aéroterrestre. Mais vous avez raison, ce qui nous a quand même beaucoup occupé, c'est cette phase 2, puisque la thématique s'y prêtait. Il s'agissait de faire débarquer des troupes, c'est cette fameuse entrée en premier sur le théâtre, avec une option aéroportée, donc des parachutistes un petit peu plus en avant, mais qui n'apportaient pas la masse suffisante, et puis une opération plus significative de débarquement amphibie dans un environnement non permissif, dans un environnement hostile en fait, hein, qu'il faut donc préparer pour permettre le déroulement dans les meilleures conditions possibles de cette opération amphibie. On a débarqué près de 150 véhicules blindés et 750 soldats de l'armée de terre, avec une phase en amont qui consiste à acquérir la supériorité maritime sur un large théâtre, de façon à ce que l'opération amphibie puisse se dérouler sans menace immédiate sur les bâtiments amphibies.
D'ailleurs, amiral, vous étiez également présent lors de cet exercice. Pouvez-vous nous dire à quel moment est-ce que vous êtes intervenu dans l'exercice Orion ? Quel était votre rôle ?
Donc, la force interarmée est organisée sous le commandement, en l'occurrence, d'un général de l'armée de terre, le général de division Le Nen, par composante. Donc, il y a 7 composantes. Une composante terrestre, une composante maritime, une composante aérienne, une composante force spéciale, une composante cyber, une composante espace et une composante soutien. Donc cette composante est à la tête de chaque composante, mais on passe à un officier général qui dirige cette composante sous les ordres de l'état-major interarmé, et j'étais à la tête de la composante maritime. Donc j'avais un état-major de 160 personnes, un état-major également interarmé et interallié. Interarmé, j'insiste dessus, puisque c'était pour nous marins une dimension nouvelle de notre organisation. On a voulu effectivement rendre beaucoup plus fluide l'opération amphibie et le soutien des forces terrestres depuis la mer. Donc pour ça, on a fait un état-major. On a mélangé beaucoup le bleu marine et le vert kaki. Et j'avais sous mes ordres environ 40% d'officiers de l'armée de terre, et avec à mes côtés un général chef d'une brigade amphibie de l'armée de terre.
Du coup, il devait y avoir une ambiance quand même assez particulière en interne. Est-ce qu'il y avait peut-être beaucoup d'appréhension à l'idée de travailler en interarmée ?
Alors, il n'y a pas eu d'appréhension, mais vous avez raison, c'était un défi important. On n'est jamais tout à fait sûr du résultat que ça peut donner quand on va sur des terres un peu plus inconnues. Et puis également, le scénario nous imposait de compresser le temps, et donc on avait eu un temps de montée en puissance pour cet état-major qui était relativement restreint. Cela dit, le résultat est particulièrement positif, puisque c'est grâce à cette imbrication et à cette très bonne connaissance qu'on a pu atteindre un niveau de confiance très important, qui était un peu l'objectif en fait de cette composition. Cette confiance mutuelle très importante entre marins et officiers de l'armée de terre nous a permis, une fois que les états-majors se sont disjoints pour accompagner la progression des forces terrestres à terre, ça nous a permis, grâce à cette très bonne connaissance que nous avions les uns des autres, de nos capacités, de nos forces, de nos faiblesses, d'aller un petit peu au-delà de la doctrine habituelle, tout en se faisant confiance mutuellement, de disjoindre un peu nos liens, parce qu'on avait besoin de mobilité, par exemple, pour être moins vulnérable, parce que les forces à terre avançaient plus vite. Et donc, on a pu aménager nos modes d'action et nos organisations de façon optimale grâce à cette imbrication initiale.
Alors, amiral Chetaille, je rappelle que vous êtes commandant adjoint de la Force aéromaritime française de réaction rapide. Vous venez de le dire et de prononcer le mot plusieurs fois. Il y a un mot qui est clé dans l'exercice Orion, c'est le mot de scénario. Il y a visiblement une particularité qui était propre à cet exercice, qui était donc ce scénario. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en quoi cela consistait ?
Alors, Orion se met en œuvre tout au long d'un scénario qui effectivement représentait un effort important pour les planificateurs, les gens qui ont organisé et conçu cet exercice. Alors, il ne sort pas de rien, ce scénario. À la base, il s'inspire du scénario assez classique de l'OTAN, qu'on joue dans d'autres circonstances, avec un pays ami, en l'occurrence Arnhem, qui représentait la surface du territoire français, qui venait soutenir ce pays ami face à une puissance continentale dite appelée Mercure, plus centrée sur l'Europe centrale, et qui qui tâchaient d'agiter des minorités ethniques sur le territoire irlandais et qui faisaient pression par des moyens militaires et économiques et par des alliés pour limiter la liberté de manœuvre du gouvernement irlandais et in fine annexer une partie de son territoire. Voilà, gros trait, tracé le scénario d'Orion. Et autour de ça, ce qui était important, c'est que il fallait que ce scénario soit réactif pour nous permettre, nous militaires, de développer du réalisme dans cet exercice. C'est-à-dire que, à partir du moment où on commence un exercice en ne sachant pas exactement quels vont être les vainqueurs et les vaincus de chaque action tactique, parce que c'est ça ce qui marque le sceau de la participation de la marine d'Orion, c'est le réalisme de l'exercice. Eh bien, il faut que le scénario puisse être suffisamment souple et que l'équipe qui l'a mise en place continue à le manœuvrer et à l'amender de façon à ce que, en fonction des remontées du terrain et de ce qui des résultats de nos actions tactiques dans les grandes phases de l'exercice, ce scénario puisse évoluer en cohérence avec ce qui se passait sur le terrain.
Selon vous, ce que vous dites, c'est que c'était important d'avoir un exercice au plus près du réel pour préparer les troupes à un conflit de haute intensité potentiellement.
Alors, c'est exactement ce que vous venez de décrire. Nous, marins, on estime que préparation opérationnelle à la haute intensité, ça sous-entend qu'on met beaucoup de réalisme dans notre entraînement. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'analyse qu'on porte sur les grandes dynamiques de ce monde, c'est que le réarmement naval et les risques de confrontation sont tels que nous devons être prêts très rapidement à un conflit de haute intensité. Et donc, on se battra demain et après-demain dans les conditions où nous sommes actuellement. Et rien ne sert d'attendre un monde idéal, d'attendre des réorganisations ou des programmes d'armement qui certes viendront, mais qui ne produiront pas leur effet immédiatement. Donc, l'intérêt des grands exercices que nous développons, c'est comment optimiser l'emploi de notre ressource humaine, matérielle, intellectuelle, aujourd'hui, avec ce qu'on a. On ne peut le faire qu'à travers un entraînement le plus réaliste possible. Ce que je veux dire, c'est que ça peut sembler peut-être un petit peu curieux qu'on ne développe que maintenant, mais en fait, s'entraîner de façon très réaliste, ça demande une organisation relativement complexe. En fait, il faut une organisation cadre qui nous permette à la fois l'arbitrage des actions qui sont menées pour dire telle partie a pris l'ascendant sur telle autre partie dans tel cadre parce que les conditions de l'engagement, les conditions de mise en œuvre des armes, les conditions de mise en œuvre des matériels ont fait que c'est ce parti-là, donc force amie ou force ennemie, qui a pris le dessus. Et puis, ça nécessite aussi une capacité de conduite du scénario, on l'évoquait, et de conduite des forces à haut niveau opérationnel, à un haut niveau, ce qui est assez inédit, en fait, dans la conduite des exercices. C'est très compliqué à mettre en œuvre, et c'est pour ça que jusqu'à présent, on ciblait plutôt des entraînements uniquement des unités ou de groupes d'unités, alors que là, un exercice Orion nous permet d'entraîner de façon réaliste depuis les états-majors jusqu'aux marins individuellement. Voilà, c'est toute la difficulté de l'exercice Orion et c'est aussi toute sa plus-value.
Et justement, parlons du terrain. Comment est-ce que ce réalisme s'est traduit sur le terrain lors de l'opération ? C'est-à-dire que, par exemple, on imagine bien des bâtiments français qui étaient présents en mer notamment. En cas de bâtiments français un peu détruits, comment cela se passait-il ?
D'abord, ça se traduit par une attrition en cours d'exercice qui doit être la plus proche possible de celle que l'on rencontrerait dans des conditions réelles. C'est cette cellule d'arbitrage là, dont j'évoquais le fonctionnement qui nous permet de dire bon, ben, tel navire ou tel aéronef a été engagé par tel moyen. Ben, il se trouve que vu les conditions de l'engagement, c'est-à-dire vu les armes utilisées, vu la précision de la désignation d'objectifs, vu les défenses mise en œuvre par l'unité attaquée, eh bien on considère que ce navire, cette unité, cet aéronef a subi tel et tel dommage jusqu'à sa destruction complète. Et quand on avait une destruction complète ou une limitation des capacités offensives, eh bien cette unité ne jouait plus ou jouait de façon très limitée au sein de l'exercice. Voilà, on n'était pas dans ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, c'est-à-dire que pour privilégier l'entraînement des unités, eh bien malgré la mise potentiellement hors de combat de telle ou telle unité, on continuait l'exercice avec les mêmes participants parce que on estimait que l'important c'était de continuer l'entraînement sur toute sa durée. Non, Là, un navire touché, un navire meilleur de combat, était éliminé, rentré à son port base, voire on déclenchait des opérations de secours pour essayer de porter secours comme on l'aurait fait en temps réel, de façon à retrouver voilà ce réalisme au sein d'une composante, ce qui a deux effets immédiats, très importants, c'est que ça transforme la façon de penser d'un état-major qui doit véritablement compter sa ressource. Ça ne rend pas pour autant moins audacieux, c'est peut-être même l'inverse d'ailleurs, parce qu'il va bien falloir atteindre l'objectif avec des moyens relativement comptés. Et puis, ça décuple aussi l'engagement de chaque marin qui se sent véritablement investi de la mission et qui sent que ce qu'il fait lui-même individuellement ou ce que fait son unité collectivement va se traduire très concrètement sous la forme d'un résultat opérationnel positif ou parfois malheureusement moins bon qu'espéré. Voilà.
Oui, et on imagine que vous, de votre côté, sur le terrain, lors de votre intervention, ça a dû aussi se traduire manifestement de cette manière aussi. On sent que c'est du vécu.
Oui, bien sûr, je pense qu'on l'a tous, tous les participants l'ont très bien ressenti. Moi, j'ai eu des, à titre personnel, de très très bons retours, des commandants d'unité, mais pas seulement, en fait, de tout type de marins engagés dans cet exercice qui a senti véritablement un moment de grande exaltation. Y compris des unités qui revenaient de déploiement, de mission, et qui passaient de mission à une phase d'exercice qui généralement n'est pas la transition la plus captivante, mais qui pourtant ont connu tous un regain d'énergie, d'engagement personnel. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire heureusement que cet exercice s'est fait sur une durée relativement limitée parce que on a bien senti qu'il y avait un engagement hors du commun de chacun. Pendant toutes les phases.
Et d'ailleurs, Amiral, on va aborder un des derniers aspects de l'exercice Orion, qui est donc son intégration au cœur des territoires. Alors, Amiral, un petit aparté, mais je rappelle que vous êtes donc commandant adjoint de la Force aéromaritime française de réaction rapide. Et justement, donc, ce que je disais, c'est que Orion a été intégré au cœur des territoires. Il a été déployé sur près de 20 départements métropolitains et dans l'ensemble de la Méditerranée occidentale, avec une présence en mer et dans les airs. Alors, du coup, je vous pose la question, comment la marine est-elle intervenue ici et qu'est-ce que ça a apporté?
Alors, c'est vrai que Orion, par son ampleur inédite, a permis de donner beaucoup de visibilité aux moyens engagés. C'était d'ailleurs un des objectifs recherchés par le chef d'état-major des armées, qui était le grand chef de l'exercice, c'est-à-dire l'exercice Orion a été décidé par le général Thierry Burkard, chef d'état-major des armées, avec également ce souci de développer les espaces de mise en œuvre de nos armées de façon à ce que le territoire français soit relativement bien maillé pour côtoyer les militaires participant à cet exercice. Comme vous le dites, notre terrain de jeu à nous, marins, il a été assez vaste. Hein, c'était toute la Méditerranée occidentale, avec beaucoup d'alliés par ailleurs. 9 nations de l'OTAN au total qui ont envoyé des moyens, sans compter d'autres nations qui ont participé de façon plus modeste en envoyant des renforts au sein de l'état-major, par exemple.
Est-ce que rapidement on peut évoquer les différentes armées qui étaient présentes? Vous avez cité 9 nations, 9 pays, c'est-à-dire il y avait qui? Il y avait les États-Unis, le Royaume-Uni.
Au-delà des Français, voilà, il y avait les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne qui a participé de façon très significative avec un porte-avions, un sous-marin, une frégate, les Pays-Bas, les Allemands, la Grèce, l'Italie, voilà, et d'autres nations, comme je disais, qui ont simplement envoyé quelques officiers. Mais ça montre bien tout l'intérêt pour un exercice qui n'était pas marqué du sceau de l'OTAN, qui n'est pas organisé par l'OTAN, mais par un pays membre de l'Alliance, simplement. Ça montre bien tout l'intérêt que nos alliés portent à ce type d'entraînement et de préparation opérationnelle à haute intensité, avec ce facteur de réalisme qui séduit beaucoup nos alliés. Voilà. Et puis, donc, au-delà du bassin méditerranéen, bien évidemment, nous, marins, on était très impliqués sur toute la frange littorale, hein, depuis la frontière espagnole jusqu'à Nice. Donc là, c'est SECMED, sous sa casquette de préfet maritime et de commandant d'arrondissement maritime, qui était très présent. Et puis, c'est évident que l'opération amphibie qu'on a menée du côté de Sète a nécessité en amont de la déconfliction avec les autorités locales, avec la municipalité des villes, des villages concernés, avec le préfet du département, avec les délégués militaires départementaux. Donc, vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que un exercice de cette ampleur, en terrain libre, hors des camps de manœuvre habituels, et en interaction sur cette frange littorale. C'est relativement inédit pour nos concitoyens, c'est-à-dire que eux, ils voient véritablement nos forces mises en œuvre. Je peux dire que, en règle générale, les retours ont été très positifs.
Et d'ailleurs, justement, est-ce qu'on peut en parler? Comment la population a-t-elle accueilli ce type d'exercice au cœur des territoires?
Alors, pour ce que je peux en savoir, parce que c'était pas directement sous ma responsabilité, moi, ce que j'ai vu autour de Sète, puisque je suis allé à terre au moment de l'opération Amphibie, et donc on côtoie nos concitoyens. Moi, j'ai vu des réactions très positives, hein, des gens qui applaudissaient, des gens qui sont venus même en famille voir les militaires se déployer dans leurs rues. Donc, objectivement, quand on ajoute à ça le fait qu'on a obtenu à peu près toutes les autorisations qu'on avait demandées pour pouvoir faire progresser nos forces, que ce soit à terre, mais également dans les airs, puisqu'il y a eu un gros impact sur la circulation aérienne civile au vu du volume des aéronefs engagés. Oui, je peux dire que l'accueil de nos concitoyens et des organisations, des acteurs économiques locaux a été très positif.
Alors, amiral, on arrive à la fin de cette interview. Il reste encore deux questions. Quels enseignements est-ce qu'on peut en tirer?
Alors, vous imaginez bien que les enseignements d'un tel exercice, il nous faudrait plusieurs heures pour pouvoir parler de ces enseignements. Surtout qu'en fait, il y a des enseignements à chaque niveau. Il y a des enseignements, chaque marin, chaque unité va y trouver des motifs d'amélioration ou de changement. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est les enseignements qui concernent l'imbrication des composantes et au sein de chaque composante, l'imbrication des domaines de lutte. Par exemple, est-ce qu'on a correctement utilisé la composante spatiale ou la composante cyber? Donc ça, c'est ce genre d'enseignement parce que l'exercice Orion, grâce à son réalisme, grâce à la multitude des acteurs concernés et grâce à sa durée significative, permet véritablement de tirer des enseignements de ce niveau-là. J'ai envie de vous dire, on peut toujours bien faire, mais on est déjà pas mal.
Et du coup, aussi, quels enseignements peut en tirer la marine? J'imagine que là aussi, vous avez pu... vous venez d'en parler brièvement, mais...
Oui, je peux parler de deux grands enseignements dans le combat naval, en règle générale. Un premier, en fait, qui n'est pas une nouveauté, mais que le scénario d'Orion et le combat à grande échelle au sein de la Méditerranée a permis à nouveau de mettre tout à fait en lumière, c'est qu'il y a un rôle très important dans l'assaut anti-navire des sous-marins d'attaque et de la chasse embarquée, de l'assaut mer par les rafales marines, parce que ce sont des moyens qui permettent une grande allonge et un effet de surprise, et que ces deux caractéristiques du combat haute mer restent tout à fait d'actualité. Donc ça nous conforte dans les grands choix capacitaires de la marine française. Puis un autre enseignement qui était peut-être un peu plus inattendu, c'est que on a toujours aussi besoin de modes d'action qui sachent se fonder sur la dissimulation de nos intentions, sur une discrétion absolue. Et ça, c'était assez intéressant. On l'avait pas perdu de vue, mais là, quand il faut faire approcher une force amphibie conséquente d'un littoral avec en face des forces d'opposition, eh bien, évidemment, on se repenche avec intérêt sur toutes les techniques de dissimulation, voire de ce qu'on appelle la déception, c'est-à-dire faire croire que notre intention est différente de celle qu'on va véritablement développer, et de discrétion absolue, être capable d'opérer pendant plusieurs jours de façon complètement discrète quelques milles nautiques du rivage. Ben ça, on est capable de le faire dans la marine française, et c'est sans doute un enseignement qui va nous amener à développer à nouveau ce genre de technique. Voilà. J'ajoute un tout petit mot, je regrette de ne pas avoir insisté sur la composante guerre informationnelle qu'on a pu mettre en œuvre lors de Orion, hein, cette idée que également dans la sphère de l'information, ciblée vers les décideurs ou de façon plus grand public, c'est également un domaine de lutte, un domaine de combat. On a été très heureux au cours d'Orion de pouvoir avoir au sein de la composante maritime des capacités d'influence et d'action dans le champ de la guerre informationnelle, à tel point que on a vu dans des médias nationaux, l'annonce de la présence de navires de guerre français dans certains points des côtes françaises, ce qui est un objectif qu'on recherchait, alors que ça n'était pas vrai, c'était de la manipulation de l'information dans le cadre de l'exercice.
Et c'est ce qui prouve encore une fois le fait que cet exercice soit interarmé, international, et surtout qu'il soit réaliste et crédible. Merci Amiral, on arrive à la fin de cette interview. Amiral, je rappelle donc que vous êtes commandant adjoint de la Force aéromaritime française de réaction rapide. Alors, dernière question très rapide. On a rapidement parlé de la suite envisagée à l'heure actuelle. Donc l'année prochaine, en 2024, il y aura un autre exercice qui est dans le four, si on peut dire.
Oui, bien sûr, il y a un exercice organisé par une nation de l'Alliance avec une contribution des marines de l'OTAN significative. Et c'est cet exercice-là que nous, Français, nous allons faire vibrer également du réalisme d'Orion et des grands enseignements d'Orion, c'est-à-dire cette intégration des domaines de lutte, ce réalisme de l'entraînement. Et nos propositions ont déjà rencontré un intérêt très important auprès de nos alliés et de nos partenaires. Et donc, en printemps 2024, on va pouvoir voir plusieurs marines de l'OTAN s'entraîner selon le même schéma.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Amiral. Je rappelle que vous êtes le commandant adjoint de la Force aéromaritime française de réaction rapide. Merci à tous nos auditeurs également qui nous ont écoutés. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Echo, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.